Le message de ce matin a pour titre « Joas et le conflit cosmique ». Juste avant de rentrer dans le message, je vous prie de courber la tête pour une courte prière. Tendre Père des cieux, nous savons que tu es là en ce moment. Alors puisses-tu m'effacer afin que ton message passe et que ton peuple soit armé pour t'obéir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Nous savons que tous les récits bibliques ont un lien quelconque avec la grande controverse. Et en fait, tout ce qui se passe sur la terre, dans notre vie, est un grand reflet du conflit cosmique. Ainsi, lorsque nous examinons nos vies à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, nous pouvons savoir de quel côté nous nous situons dans ce conflit. En ce sabbat matin, nous allons porter notre attention sur la vie de Joas et en tirer des leçons. Je vous prie d'aller dans 2 Chroniques 22, les versets 10 à 12. C'était le texte de méditation. Je vous prie d'aller dans 2 Chroniques 22, les versets 10 à 12. Quand vous y êtes, dites « Amen ». Nous lisons ensemble. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Eli. Ainsi, Joshabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Acasia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Sachez, chers frères et sœurs, que le mot « Joas », ça signifie « donné par l'Éternel ». Ça veut dire quoi? Et c'est lui qui était le roi légitime d'Israël, car il était le fils du roi. Vous me suivez? Cependant, alors qu'il n'était qu'un bébé, on cherchait à le faire périr pour l'empêcher de régner. En guise de protection, il fut enlevé du regard d'Athalie et il est demeuré où? Dans la maison de Dieu, donc, le sanctuaire, n'est-ce pas? Le mot Athalie signifie affligé du Seigneur. Elle est la fille de Jézabel qui veut dire Baal est l'époux. Elle voulait faire périr Joas pour l'empêcher de régner sur Israël. En effet, elle parvint au pouvoir en commettant de nombreux meurtres. Pendant que Joas était dans le sanctuaire, Athalie régnait sur le pays. Et elle fut reine de Juda pendant combien d'années? 6 ans. Vous allez voir où je veux en venir. Apocalypse 12, versets 3 à 5. Vous vous rappelez que chaque histoire dans la Bible, c'est un reflet du conflit cosmique. Allons maintenant dans Apocalypse 12, les versets 3 à 5. Vous y êtes? Apocalypse, chapitre 12, les versets 3 à 5. Vous y êtes? Non. Nous disons ensemble. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vers où? Le trône. C'est quoi le trône? Le sanctuaire. Maintenant, Apocalypse 13, verset 18, dit ceci. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On voit que le chiffre 6 revient, n'est-ce pas? On sait que Jésus est le don suprême de l'Éternel. Amen. Amen. Étant le Fils de Dieu, il est le roi légitime de la terre. Et en fait, il est le roi légitime de l'univers. Cependant, alors qu'il était bébé, on cherchait à le faire périr pour l'empêcher de régner sur notre planète. En guise de protection, selon le texte, il fut mis hors d'atteinte du dragon par Dieu dans le sanctuaire céleste et y demeura. Ainsi, la vie de Joas est un symbole de la vie de Jésus-Christ depuis son ascension. Vous me suivez? Là où il est dérobé du regard de Satan et il est dans le ciel, dans le sanctuaire céleste. Le dragon, naturellement, c'est l'antéchrist. Il prétend être l'affligé du Seigneur, mais son œuvre est en opposition à celle de Dieu. Il est intimement associé avec Satan. Le dragon voulut faire périr Jésus afin de l'empêcher de régner. En fait, le règne du dragon est caractérisé par de nombreux meurtres. Pendant que Jésus était dans le sanctuaire céleste, le dragon règne sur la terre. Le nombre qu'il identifie est 666, et de ce fait, le chiffre qui identifie le dragon, c'est 6. Atali, elle représente le dragon, qui à son tour représente à la fois Satan et Rome, le système papal et toutes les églises qui suivent ce système. Regardons ensemble les actions d'Atali pendant son règne. Je vous prie d'aller dans 2 Chroniques 24, le verset 7. Deux Chroniques, chapitre 24 et le verset 7. Nous lisons ensemble. « Car l'impie Atali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. » On voit ici qu'Atali est appelé comment? L'impie, n'est-ce pas? Et durant son règne, elle ravageait la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Le sanctuaire. En d'autres termes, ce qu'Atali faisait, c'est qu'elle foulait aux pieds le sanctuaire. Ainsi, pour que le sanctuaire cesse d'être foulé, il fallait que le règne d'Atali prenne fin. J'espère que vous comprenez où est-ce que je m'en viens. De même, la Rome papale est décrite comme étant l'impie. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, quand dit « alors apparaîtra l'impie ». Dans Daniel 8, elle foule aux pieds le sanctuaire de Dieu. Et c'est à la fin de son règne que le sanctuaire cesse d'être foulé. La question, quelle prophétie aborde le rétablissement du sanctuaire? On parle justement du sanctuaire dans la leçon. C'est quelle prophétie qui parle du rétablissement du sanctuaire? Répondez, s'il vous plaît. Exact. Daniel 8, versets 13 et 14 dit ceci. « J'entendis parler un saint, et un autre saint a dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » C'est la prophétie des 2300 soirs et matins qui traite de la fin du règne de Rome, ainsi que la fin des ravages commis contre la maison de Dieu. La purification du sanctuaire se réfère au rite annuel des expiations. Et nous allons voir ensemble le processus de ce rite ainsi que sa signification. Nous y allons aller étape par étape. Étape 1. On égorge le bouc de l'Éternel. Ceci correspond au sacrifice de Jésus-Christ qui rend possible l'expiation du sanctuaire. Et c'est dans le parvis que ce sacrifice se déroule. En effet, nous savons que c'est sur la terre que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. L'étape 2. Le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Avec le sang de la victime égorgée, il en asperge le propitiatoire, le trône de Dieu. Ceci correspond à Jésus qui entra dans le lieu très saint en 1844, accomplissant la prophétie des 2300 soirs et matins. Au moment où je vous parle, Jésus est en train de purifier le sanctuaire céleste. Et tous les péchés contenus dans la maison de Dieu sont transférés sur lui. Troisième étape. Le souverain sacrificateur quitte le lieu très saint pour retourner au parvis où se trouve la congrégation. Ceci symbolise le retour futur de Jésus-Christ sur terre où se trouve son peuple. Étape 4. Le souverain sacrificateur met sa main sur le bouc pour Azazel ou bouc émissaire. Ceci symbolise le moment où Jésus place les péchés du peuple de Dieu sur Satan qui en subira la dernière pénalité. Étape 5. Le bouc émissaire est emmené dans un lieu désert. Il ne réapparaîtra jamais dans la congrégation d'Israël. Similairement, Satan sera à tout jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple et anéanti lors de la destruction finale du péché et des pécheurs. Maintenant que nous avons vu le rite du sanctuaire dans son ensemble de l'expiation, nous allons retourner à la vie de Joas, parce qu'on se rappelle que lui, il est un type de qui? Jésus où? Jésus sur terre ou dans le sanctuaire, n'est-ce pas? On parle de Jésus dans le sanctuaire. Donc, la croix, c'est déjà arrivé. Vous me suivez? Donc, on est rendu après l'ascension. 2 Chroniques 23, versets 1 à 3. Vous allez voir à quel point la parole de Dieu est vivante. 2 Chroniques 23, versets 1 à 3. J'y vais. Vous pouvez lire avec moi. La septième année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaine. Azaria, fils de Jérocam, rassemblèrent les Lévites, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Jokanan, Azaria, fils d'Obed, Maaseja, fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël. Et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi règnera, comme l'Éternel a déclaré à l'égard des fils de David. » Maintenant, pour vous donner un background, Jéhojada, il est mort à l'âge de 130 ans. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'en général, on ne vit pas plus que 110, 120 ans. Lui, il est mort à l'âge de 130 ans et à l'époque des rois, où les gens ne vivaient pas longtemps. Joas, il a régné pendant 40 ans sur Israël. Ceci signifie qu'au moment où Jéhojada a fait l'alliance avec les chefs de centaine pour mettre Joas sur le trône, Jéhojada avait un minimum de 90 ans. C'est vieux, n'est-ce pas? 90 ans et on fait une convocation comme ça. Il était probablement la personne la plus âgée du peuple d'Israël à l'époque. En ce sens, il était un ancien en termes de jours. Est-ce qu'on me suit? Il est la personne la plus âgée, ça veut dire un genre d'ancien en termes de jours. Par ailleurs, Jéhojada étant le souverain sacrificateur, tous les Lévites et le peuple étaient à son service. Jéhojada a convoqué tous les Lévites pour les assembler où? Dans la maison de Dieu, donc, dans le sanctuaire. Les Lévites étant dans le sanctuaire, virent le roi Joas et traita alliance avec lui. Jéhojada déclare, « Voici, le fils du roi règnera. » En ce sens, il accorde la royauté et la domination du peuple d'Israël à Joas. Cependant, Joas n'est pas sorti du sanctuaire. Il est là. Vous me suivez? L'alliance qui se fait est dans le sanctuaire. Vous allez voir. Daniel 7. Juste pour montrer à quel point la Bible est vraiment vivante. Et notre vie est supposée représenter un type du conflit cosmique, mais dans le bon sens. Parce que ça peut refléter le conflit cosmique, mais dans le mauvais sens. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes des victorieux, alors ça reflétera Jésus-Christ, n'est-ce pas? Daniel 7, versets 9, 10, ensuite nous lirons 13 et 14. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1 000 000 le servaient, et 10 000 000 se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici. Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le vit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Parallèlement, Dieu le Père est l'ancien des jours, n'est-ce pas? Il avait une multitude d'anges et de créatures d'autres mondes à son service. Dans le ciel, spécifiquement le sanctuaire céleste, il y avait un grand rassemblement des êtres célestes. Et ce rassemblement était dirigé par qui? Dieu le Père. Il était assis sur son trône, donc sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Et lors de ce rassemblement, Jésus, le Fils de l'homme, s'approcha où? Sur la terre ou vers son Père? Vers son Père. Il alla ainsi dans le lieu très saint, tel le souverain sacrificateur lors du rite des expiations. La convocation de Jéhojada constitue donc un symbole pour la deuxième étape du rite des expiations qui a été accompli par Jésus en 1844. Est-ce que vous me suivez? Jéhojada typifie Dieu le Père, alors que les Lévites représentent les êtres célestes ou bien les anges, qui sont aussi des êtres célestes. Maintenant, nous allons lire 2 Chroniques 23, verset 6. Nous lisons ensemble. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les Lévites de service. Ils entreront car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Seuls les Lévites pouvaient entrer dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Car ils sont saints. De même, les humains pécheurs que nous sommes, nous ne pouvons pas physiquement entrer dans le sanctuaire céleste. Seuls les anges et les autres êtres sans péché ont accès au sanctuaire céleste, dans la présence du Père. Lisons maintenant le même chapitre, les versets 7 et 8. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il en sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Les Lévites et le peuple d'Israël ont parfaitement obéi aux ordres de Jéhojada concernant le couronnement de Joas, qui se déroulerait dans le parvis, n'est-ce pas? Parce qu'ils devaient aller au parvis pour qu'il soit proclamé roi et qu'il entre dans son règne. Tous les Lévites, sans exception, ont accompagné le roi lors de la sortie du sanctuaire vers le parvis. De même, tous les anges, sans exception, accompagneront Jésus lors de sa sortie du sanctuaire céleste vers la terre. Et les anges et le peuple de Dieu obéiront parfaitement à ses ordres parce qu'il n'y aura plus de péché. Car le péché n'existera plus chez les humains justes. En effet, le sanctuaire aura été purifié de toute trace du péché. Amen. Nous allons lire le verset 11. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et l'on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignirent et ils dirent, vive le roi. Alors maintenant, nous avions fait la deuxième étape. Il était sur le point de sortir, maintenant il est sorti. Joas, une fois sorti du sanctuaire, arrivé sur le parvis, fut couronné comme roi de Juda. On plaça la couronne sur sa tête et lui donna le témoignage, à savoir c'est les 10 commandements. Il reçoit des hommages et des acclamations. Vive le roi! Et de même, Jésus, à son retour, il portera une couronne de vainqueur sur sa tête. Il aura aussi les 10 commandements en main. Et toute la terre va comprendre que ce sont les 10 commandements qui sont l'unique standard de mesure de caractère. Le peuple de Dieu lui dira, vive le roi Jésus! On peut dire maintenant, vive le roi Jésus! Encore une fois, la sortie du sanctuaire de Joas représente la troisième étape du rituel des expiations, quand Jésus quitte le sanctuaire pour revenir sur terre pour y être couronné. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Lisons maintenant le verset 12. Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi. Et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Maintenant, Athalie se présente au parvis, vers le roi et vers le peuple d'Israël. De même, le bouc pour Azazel fut présenté au souverain sacrificateur et au peuple, n'est-ce pas? L'arrivée d'Athalie, ça représente la quatrième étape de la purification du sanctuaire où Jésus place sur Satan tous les péchés du peuple de Dieu. Lisons maintenant 2 Chroniques 23, le verset 13. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Athalie est celle qui avait fait périr toute la race royale afin de pouvoir usurper le trône, n'est-ce pas? C'est elle qui était coupable de complot et de conspiration à la base. Cependant, elle prétend être une victime de conspiration contre son règne, alors que Joas est le roi légitime d'Israël, en tant que fils du roi. De même, Satan a accédé au trône terrestre par usurpation. Il a volé le trône, en causant la chute de la race humaine, qui était à l'origine une race royale, selon Ésaïe 14. Il fit périr une multitude de cette race et devint leur chef. Cependant, il prétend toujours être victime d'une conspiration. Et il prétend que Jésus n'est pas le roi légitime de la terre. Même s'il sait que ce n'est pas vrai. Nous allons lire les versets 14 et 15. Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit, « Faites-la sortir en dehors des rangs, ou ça, en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. On voit que Jéhojada avait ordonné que l'on fasse sortir Athalie du parvis, n'est-ce pas? Pour la mettre à mort. Et tous ceux qui la suivaient étaient aussi mis à mort par le même châtiment qui est l'épée. Ceci représente la cinquième et la dernière étape de l'expiation, où l'on amenait le bouc émissaire vivant hors du parvis. Cela symbolisait Satan qui sera à tout jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple, et anéanti lors de la destruction finale du péché et des pécheurs. Et tous ceux qui auront suivi Satan subiront le même châtiment que lui, à savoir le feu éternel. Pas qu'il est éternel, mais que la conséquence est éternelle, parce que c'est la mort éternelle. Maintenant, nous allons lire 2 Chroniques 23, versets 16, ainsi que les versets 20 et 21. Jéhojada traita entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Verset 20. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Maintenant, 2 Chroniques 24, verset 1 dit ceci. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère t'appelait Tibja de Beersheba. On voit ici que Jéhojada établit une alliance de paix avec le peuple d'Israël. Le peuple devait s'engager à être le peuple de l'Éternel et de renoncer une fois pour toutes l'idolâtrie. Il devait aussi être fidèle envers le roi Joas, qui aussi devait être fidèle à l'Éternel. Ensuite, tous les représentants du peuple allèrent vers le roi dans sa maison. C'était une atmosphère de joie, de paix, de tranquillité dans la ville. Joas avait 7 ans quand il devint roi, et on sait que 7 représente la perfection, la plénitude. Et plusieurs personnes croient que Jésus-Christ va revenir au 7e millénaire. Apocalypse 21, versets 1 à 3. Apocalypse 21, versets 1 à 3. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 22, verset 3 dit ceci, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Dieu le Père ici, d'une voix forte, confirme l'alliance entre le peuple de Dieu, le roi Jésus et lui-même. Ce ne sont que ceux qui s'étaient engagés à renoncer définitivement au péché qui peuvent en bénéficier de cette alliance. Ensuite, les élus entrent dans la maison du roi qui est la Nouvelle Jérusalem. Jésus s'assit sur son trône royal qui est situé dans la ville. Son règne est parfait, sans défaillance. Ses serviteurs sont avec lui pendant l'éternité, dans une atmosphère de joie, de tranquillité. C'est là que nous serons, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nous aspirons tous au moment merveilleux où nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, selon l'alliance que Dieu a établie avec nous. Nous avons hâte de voir Jésus couronné roi sur cette terre et remporter la victoire finale sur Satan. Sachez que pour avoir droit de prendre part à la joie éternelle, nous avons un rôle à jouer dans le plan de la rédemption. Quel est ce rôle? Nous allons retourner au texte de 2 Chroniques, chapitre 23. Nous allons lire les versets 6, 9 et 10 pour comprendre quelle est notre place dans ce conflit cosmique. 2 Chroniques, chapitre 23, les versets 6, 9 et 10. Nous lisons ensemble. « Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. » Le sacrifice Jéhojada remit au chef de centaine les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient où? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Ainsi, le peuple d'Israël, selon l'ordre de Jéhojada, avait le rôle de garde. En d'autres termes, c'est des soldats. Est-ce qu'on me suit? Et chacun a des armes à la main. Et il devait être prêt à défendre le roi Joash contre Athalie et ses partisans jusqu'à mettre leur vie en danger en le protégeant. Est-ce qu'on me suit ici? Pour accomplir leur tâche, ils ont reçu des armes, telles des lances, des boucliers. Et ces armes venaient d'où? De la maison de Dieu. Les armes venaient du sanctuaire. Similairement, selon l'ordre de l'Éternel, nous devons être prêts à défendre la cause de Jésus contre Satan et ses partisans, jusqu'à sacrifier notre propre vie si c'est nécessaire. Et pour accomplir cette tâche, le Père Céleste nous fournit des armes provenant de son sanctuaire. Quelles sont ces armes? Éphésiens 6, versets 11 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. J'ose croire que c'est un texte assez connu. Nous y sommes. Éphésiens 6, les versets 11 à 18. Nous lisons ensemble. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous rappelons que Athalie est morte au tranchant de l'épée. Nous aurons la victoire sur Satan par la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Nous continuons. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Chers frères et sœurs, pour nous engager dans cette lutte cosmique, nous devons revêtir les armes provenant du sanctuaire céleste. La vérité, la justice, le zèle de l'Évangile. En passant, il y a une sortie missionnaire tout de suite. On parle du zèle pour l'Évangile. La foi, le salut et la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous procure ces armes. De plus, nous devons agir en tant que gardiens de nos frères de la foi. Nous devons prier les uns pour les autres avec une entière persévérance, étant guidés par l'Esprit de l'Éternel des armées. Et si nous utilisons ces outils, notre victoire en Jésus-Christ est assurée. De même qu'Athalie fut tuée par l'épée, nous vaincrons Satan par la promesse de Dieu, parce que Dieu l'a annoncé ainsi. Nous aurons part à la paix de la Nouvelle Jérusalem. Nous dirons pendant l'éternité, vive le roi Jésus. Répétez avec moi, vive le roi Jésus. Telle est ma prière pour vous et pour moi.